9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Il y a foule sur le tout nouveau boulevard Haussmann dans cette soirée printanière du 7 mai 1876. Les calèches sont touche à touche, les chevaux piétinent et piaffent jusqu'à l'immense bâtisse flambant neuve, édifiée pour un des hommes les plus fortunés de ses débuts de la Troisième République, Édouard André. Le boulevard, la coursive, la cour, le péristyle, tout est éclairé à giorno par des lanternes à profusion. Le fameux journal L'Illustration rend compte de cette inauguration du tout nouvel hôtel particulier de M. André, hôtel particulier bâti depuis 7 ou 8 ans par l'architecte Henri Parent. Le reporter va multiplier les superlatifs pour décrire cette fête splendide qu'il qualifie de bal féerique chez M. André. C'est le titre que le journal L'Illustration a choisi pour rendre compte de cette soirée inoubliable. Je cite « Il est impossible de trouver un plus admirable cadre. Il y avait là toutes les célébrités de la mode et de l'élégance, la comtesse de Pourtalès, la duchesse de Mouchy, la comtesse Tolstoï, la comtesse Petrovska, la comtesse de Vieille-Castel, la baronne de Vitry, la baronne Alphonse de Rothschild, la duchesse de la Rochefoucauld-Bisaccia, mesdames Eugène Varitive, de Janzé, de Gouy d'Arcy et bien d'autres. Elles brillaient toutes d'un même éclat au milieu des enchantements de ce jardin d'hiver, une des merveilles de Paris. Il est vrai, impossible de trouver un plus admirable cadre. » Et un peu plus loin, le journaliste ajoute « Rien ne manquait d'ailleurs pour faire du bal de M. André une de ces fêtes à sensation dont les magnificences font époque. Les murs des deux pièces d'entrée, le vestiaire, le vestibule disparaissaient sous une tenture odorante de violette et de camélia. Les dorures du double salon de danse ruisselaient, étincelantes sous les feux de 1000 bougies. » Double salon de danse, dit les côtiers, parce qu'il y a une cloison amovible qui, en effet, permet de doubler le volume qui, déjà, est monumental. Cet hôtel particulier est tout à fait à la mesure de ce qui, de l'autre côté de l'Atlantique, à la même époque, est en train de s'édifier un peu partout, à Boston, à New York, c'est-à-dire ces espèces de grands palais urbains qui, d'abord et avant tout, sont conçus pour recevoir. Ça tombe bien pour une fête comme celle de mai 76. On pense évidemment à la description que donne d'un hôtel jumeau de celui-ci, le grand Émile Zola, dans La Curée, je cite Zola. « Du côté du jardin, la façade était autrement somptueuse. Un perron royal conduisait à une étroite terrasse qui régnait tout le long du rez-de-chaussée. La rampe de cette terrasse, dans le style des grilles du parc Monceau, était encore plus chargée d'or que la marquise et les lanternes de la cour. » Puis l'hôtel se dressait, les fenêtres, hautes et minces pour les pavillons, espacées davantage et presque carrées sur les parties plates de la façade. Ces fenêtres avaient au rez-de-chaussée des balustrades de pierre et des rampes de fer forgé dorées aux étages supérieurs. C'était un étalage, une profusion, un écrasement de richesses. L'hôtel disparaissait sous les sculptures. Mais revenons, si vous le voulez bien, à ce 7 mai 1876 et au reporter de l'Illustration qui n'a pas oublié de s'intéresser au beau jardin d'hiver de l'hôtel André, il l'a cité tout à l'heure. La merveille de ce palais merveilleux était sans contredit le jardin d'hiver dont nous avons parlé. Nos grandes élégantes y étaient réfugiées pour éviter la foule. Et certes, les jardins d'Armide ne pouvaient offrir autant de charmes et de séductions. De semblables somptuosités ne sauraient être permises à notre époque qu'à un souverain ou un banquier. Oh, c'est plutôt de ce dernier côté qu'il faudrait se tourner, en l'occurrence, même si Édouard André doit aussi pouvoir prétendre au titre de souverain de Paris. Pas encore question ici, ou très peu en tout cas, des grandes œuvres d'art qui plus tard vont faire la célébrité, le rayonnement mondial de cette maison. Du reste, au lendemain de cette inauguration fastueuse, le journal des frères Goncourt fait entendre, disons-le, un petit peu comme toujours chez les Goncourt, quelques bémols. Eux se montrent plus laconiques et même, disons-le, carrément plus ironiques. Ils n'ont guère été sensibles à la débauche de luxe éclaboussée sur les convives. Je cite les Goncourt. Bal chez André, en cet hôtel de tant de millions, pas de meubles d'art comme chez Hertford, pas de décoration comme le plafond de Baudry chez la Païva, pas de tapisserie. Ha ha ! Nous qui connaissons la suite, nous serions tentés de répondre à ces messieurs. Attendez, attendez un peu, ça va venir.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Édouard André était né sous Louis-Philippe en 1833 exactement, d'un père protestant et bonapartiste. Sa mère d'adoption était catholique et royaliste, autant dire que le meilleur de la France et le plus contrasté de ses oppositions avait voulu faire synthèse dans son berceau. Je parle d'une mère d'adoption parce que sa mère biologique, Louise-Marie Cottier, était morte en couche à la naissance de son frère cadet, qui lui-même d'ailleurs était mort au berceau. Et donc, c'est la seconde épouse de son père qui va l'élever. Elle était elle-même d'ailleurs la fille d'un général d'Empire qu'on connaît bien et dont j'ai eu l'occasion de vous parler, puisqu'il s'agit du général Gudin. La famille paternelle était originaire de Nîmes. Elle gérait des sociétés bancaires depuis la Renaissance, et on peut dire du père d'Édouard André, Ernest, qu'il a été l'un des hommes d'affaires les plus lancés du Second Empire. Autant dire qu'Édouard se retrouve très jeune à la tête d'une fortune immense dont, disons-le, il avait délégué la gestion à des cousins. On ne peut pas dire que le père d'Édouard André lui-même, d'ailleurs, ait été quelqu'un de très passionné par les affaires. L'argent ne l'intéresse guère en tant que tel, et en dandy très privilégié, il consacre plutôt son temps à le dépenser, nous dit Pierre Curie, le conservateur du musée, à propos du fils d'Ernest, à propos d'Édouard. Édouard, dans sa jeunesse, entame une carrière militaire dans le régiment des guides de l'empereur. Les mauvaises langues disent que c'est pour la beauté de l'uniforme, au prestige duquel les femmes de l'époque sont sensibles. Plus vraisemblablement, c'est son amour de l'équitation qui le conduit à ce choix. En effet, membre du Jockey Club, Édouard André entretiendra toujours des chevaux pour les monter, ainsi que pour ses nombreuses voitures, et il possédera même une écurie de course non loin de son château de Rantilly. Voyez que nous sommes en présence d'un jeune homme qui ne s'inscrit pas directement dans les pas de son père et de son grand-père pour ce qui est de la gestion des affaires. C'est un dandy, comme il y en a tant dans cette belle époque, qui regorge à Paris de belles fortunes. La maturité venue, poursuit Pierre Curie, André, donc il parle d'Édouard André, le constructeur du fantastique hôtel particulier du boulevard Haussmann, André s'intéresse à la politique. Il devient député du Gard à la suite de son père, de 1864 à 1876, et finance activement la création de l'école libre des sciences politiques entre 1872 et 1875. C'est ce qui deviendra Sciences Po, bien sûr. Mais cette voie se referme après son échec aux législatives de 1876, et désormais, il va pouvoir se consacrer, nous dit le conservateur, se consacrer plus sérieusement à son goût pour la musique et à sa passion pour les arts. Avec d'abord, dans un premier temps, un intérêt pour les arts les plus contemporains, les arts décoratifs, mais aussi la peinture. Il est notamment collectionneur de l'école de Barbizon. En 1872, il acquiert la Gazette des Beaux-Arts. Ça compte, évidemment, lorsqu'on prétend se faire un nom dans le monde des arts. Il préside aussi, à partir de 1974, l'Union Centrale des Beaux-Arts appliqués à l'industrie, ce qui sera le noyau de l'Union Centrale des Arts Décoratifs, avec le musée du même nom. Et c'est d'ailleurs cette année-là, en 1974, qu'est exposé son portrait, réalisé 2 ans plus tôt par une femme peintre, une certaine Nelly Jacquemart. Nous y voilà. Peut-être un mot de Nelly Jacquemart, qui, elle, a 8 ans de moins. Elle était née en 1841. Fille d'un marchand de couleurs et de papier peint. Elle a été adoptée, quasiment adoptée, par le couple Bourdon de Vitry, qui possédait dans l'Oise le somptueux domaine de Chaly, avec la grande abbaye de Chaly, merveilleuse. Et c'est là que Nelly a grandi. Et c'est là, d'ailleurs, qu'elle va se faire une collection de souvenirs auxquels elle reviendra plus tard, lorsqu'elle aura l'occasion, grâce à la fortune de son mari, de racheter l'abbaye de Chaly, avec sa chapelle décorée de fresques du XVIe siècle. Dès 1863, donc à l'époque elle a 22 ans, c'est facile à calculer, Nelly Jacquemart va exposer au Salon d'abord des scènes tirées de la vie de Molière et des œuvres religieuses, et puis bientôt des portraits, parce qu'elle portraiture tout ce qu'il y a de bien dans la société, les gens les plus puissants, Adolphe Thiers, Victor Duruy, le général, même maréchal de Camp Robert, des industriels comme Louis Hachette, Robert de Vindel, Paul von Devries, et puis, bien sûr, Édouard André, donc, dont elle avait peint le portrait en 1872 et qu'elle va finir par épouser le 30 juin 1881. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas tout à fait le même âge, c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout la même fortune, leurs religions aussi sont différentes, puisque lui, vous l'avez compris, est protestant, alors qu'elle est catholique. C'est un mariage qui sera un mariage blanc. Édouard André étant à l'époque malade, il a la syphilis, il est donc sexuellement contagieux. La postérité des Jacquemart André, c'est dans le domaine des collections d'art qu'il va falloir aller la chercher. Une version instrumentale de la célèbre valse de l'acte 2 du Faust de Gounod, l'orchestre philharmonique de Vienne était sous la baguette de Rudolf Kemp.
Vous écoutez Radio Classique.
Ce mariage est un mariage blanc, ce mariage de 1881 entre Édouard André et Nelly Jacquemart, mais c'est un mariage qui va pour autant être heureux, très heureux, sur fond de voyage et de collectionnite aiguë. Très tôt, sous l'influence de Nelly, on va débarrasser les salons du nouvel hôtel particulier de tout ce qu'il y avait de plus contemporain, non seulement en art décoratif, mais en art tout court. On enlève même les œuvres de Delacroix, hein, pour vous donner une idée, et on va remplacer tout ça par des antiquités glanées, achetées, collectionnées par le couple dans ses voyages en Europe, au Proche-Orient, chez les meilleurs antiquaires bien sûr, mais dans aussi un certain nombre de salles des ventes. Vous savez, il y aurait une émission entière à faire sur ces chineurs de voyage qui, à l'époque, à l'instigation d'un devine par exemple, ou d'une comtesse de Béague, pérégrinent pour enrichir leur collection. Édouard et Nelly vont parcourir l'Europe et surtout, disons-le, l'Italie, pour constituer une véritable collection. C'est ce qui donnera au premier étage de l'hôtel le célèbre musée italien, bien entendu, avec une prédilection pour les peintres vénitiens, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, évidemment, Vittore Carpaccio également. Pour la sculpture, on irait plutôt du côté de Florence, avec des bronzes de Donatello, des marbres de Settignano, des terres cuites de Sansovino, tout ça somptueux et qui n'empêche nullement l'acquisition de grandes tapisseries des Flandres ou même de Paris, des peintures hollandaises, bien entendu. C'est immense cette collection que sont en train de constituer les Jacquemart André, on peut les appeler comme ça maintenant. Voici ce que nous dit Pierre Curie de nouveau. Voyager à la belle époque avec les moyens financiers qui sont ceux du couple André, c'est circuler dans des trains luxueux accompagnés de domestiques et de secrétaires, c'est fréquenter des palaces d'Europe, notamment dans les stations thermales si importantes pour la santé d'Édouard, c'est traverser la Méditerranée en paquebot ou mieux encore en yacht privé, loué avec son équipage, ce qui permet une circulation à toute liberté. Marseille, Naples, Port Saïd, Beyrouth, Istanbul, Venise, la curiosité insatiable des voyageur ne connaît pas de bornes et s'étend de l'Espagne au Cap Nord, de Saint-Pétersbourg au Caire. Il résulte de ses pérégrinations permanentes et des achats faits à l'étranger, une collection infiniment variée, car il n'existe à cette époque pratiquement aucune restriction de circulation pour les œuvres d'art. Ça a été un régal pour nos deux collectionneurs, évidemment. Hélas, les choses sont ce qu'elles sont. Vous savez qu'Édouard André était malade, je vous l'ai dit. Il va mourir, un peu prématurément, sans doute, le 16 juillet 1894. Et alors qu'il s'était marié sous le régime de la séparation de biens, eh bien, il a fait un testament en faveur de son épouse. Alors, bien sûr, le testament en question sera contesté par la famille, mais elle gagne son procès, Nelly André. Et à partir de 1895, elle est non seulement en possession de l'hôtel particulier du boulevard Haussmann, mais aussi de l'immense fortune qui va avec et qui va lui permettre de compléter, de parachever, de peaufiner cette collection dont elle va faire un musée. Le Sanctus du Requiem de Gabriel Fauré par l'ensemble Accentus et quelques membres de l'Orchestre National de France sous la direction de Laurence Equilbet.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Évidemment, je vous ai dit qu'il s'en donnait à cœur joie nos collectionneurs. Il ne faudrait pas oublier que Nelly Jacquemart André, puisqu'il faut l'appeler ainsi maintenant, elle a pris le nom de son mari. Nelly est une philanthrope. Ça n'empêche pas de créer des logements sociaux, de financer un orphelinat de jeunes filles, de faire pas mal de dons et d'engagements de toutes sortes, bien sûr. Mais évidemment, sa passion à elle, c'est la collection. Elle va compléter le décor de cet hôtel Jacquemart André, avec notamment cette composition de Tiepolo, l'arrivée du roi Henri III à la Villa Contarini, qui va maintenant, à la place de ce qu'était justement le grand jardin d'hiver, occuper la cage d'escalier la plus célèbre de Paris, sans doute, ce grand escalier à double révolution de ce qui va devenir bientôt le musée Jacquemart André. Alors, c'est une femme moderne, Nelly Jacquemart, qui va avoir une des premières automobiles, qui fait installer le téléphone et l'éclairage électrique, qui voyage beaucoup plus loin qu'elle ne l'avait fait avec son mari, puisqu'elle va en compagnie du jeune prince Louis d'Orléans. Je vous ai dit qu'elle était depuis Chaly, très proche de cette maison d'Orléans. Elle va faire tout un voyage en Égypte, à Ceylan, on disait Ceylan à l'époque, pas Sri Lanka, aux Indes, et puis elle projette même, après avoir séjourné chez le Maharaja de Kapurthala, elle projette même de se rendre jusqu'en Chine, jusqu'au Japon, sauf qu'une nouvelle va la ramener en Europe. Et oui, incroyable mais vrai, le domaine de Chaly est en vente. Et c'est là qu'elle a tous ses meilleurs souvenirs. Et c'est là qu'elle a vu naître sa vocation de peintre et de professeur de peinture. Et donc, elle va revenir pour acheter le domaine. Elle le rachète le 14 juin 1902 au prince et à la princesse Murat qui en avait été hérité. Et elle va pouvoir désormais vivre là-bas en continuant des collections, alors qu'ils sont des collections un peu plus orientales, un peu plus éclectiques peut-être que celles qu'on peut voir à l'hôtel Jacquemart-André. Elle meurt, Nelly Jacquemart-André, à Paris, bien sûr. Elle meurt le 15 mai 1912. Autant dire qu'elle n'aura pas connu l'horrible cataracte dans laquelle devait s'engloutir tout ce monde, tellement idéal pour les personnes fortunées comme elle, tout ce monde d'avant la Grande Guerre, tout ce monde qui lui avait donné l'occasion de réunir ce que la culture occidentale avait produit de plus beau, de plus fin, de plus extraordinaire dans son magnifique hôtel.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors évidemment, l'hôtel va devenir, selon ses voeux, un musée qui sera inauguré par le président de la République en personne, Raymond Poincaré, en décembre 1913. Pas besoin de vous faire un dessin, décembre 1913, on n'est pas très loin de la guerre. Paris sera même bombardé vers la fin de la Grande Guerre, hein, par la Grosse Bertha. Il faudra protéger les collections. Alors, un certain nombre de bonnes fées vont se pencher sur le berceau d'un musée qui est le nouveau grand musée parisien. Et ce sont des gens que j'aime tout particulièrement. Pierre de Noyac, qui a été le grand conservateur du château de Versailles et qui va prendre là, si je puis dire, une retraite dorée. Il y aura plus tard René Huyghe, qui malheureusement sera là à un moment où il y aura quelques scandales au musée Jacquemart-André. Ne nous attardons pas là-dessus. Et puis Jean-Pierre Bablon, que je suis très heureux de citer, qui prend la tête de la fondation en 1992, avec à l'époque un conservateur qui s'appelle Nicolas Sanfargarno, qui va jouer un rôle important jusqu'à ce qu'en 1996, Culture Espace devienne le gestionnaire de cette fondation qui appartient, vous l'avez bien compris, à l'Institut de France. C'est un des trésors, un des joyaux de la couronne de l'Institut de France, si je puis dire. Aujourd'hui, le musée vient de faire peau neuve. Après un an de travaux, tout est beau, tout est prêt, tout est fait pour vous accueillir, si je puis dire, avec, dans ce poumon culturel en plein milieu du 8e arrondissement, une exposition pour lancer le nouveau musée Jacquemart-André, une exposition consacrée au chef-d'œuvre de la collection Borghèse. Je pense que ni Édouard, ni Nelly n'auraient désapprouvé un tel choix.
Vous écoutez Radio Classique.
C'est donc ce soir qu'a lieu l'inauguration officielle de ce musée entièrement rénové. Pour tout vous dire, le public s'y presse déjà depuis quelques semaines, notamment à l'exposition sur les chefs-d'œuvre de la galerie Borghèse. Bonjour, mon cher.
Bonjour, mon cher Franck. Question : y a-t-il toujours ce jardin d'hiver où on pouvait prendre un thé avant les travaux?
Ah oui, sûr. Alors ça, c'est pas le jardin d'hiver, c'est l'ancienne salle à manger qui est devenue le restaurant magnifique. Avec la terrasse. Ah mais non seulement il y a toujours, mais ça a été complètement restauré avec la grande fresque de Tiepolo au plafond. C'est magnifique, c'est un des plus beaux endroits qui soit. Et puis, pour tout vous dire, je me suis amusé, à faire toutes les voix de l'audio guide du musée.
Justement, voilà, vous accompagnez en quelque sorte le visiteur.
Il existe une promenade musicale que vous pouvez faire et toutes les musiques ont été choisies par un certain Jérémy Bigori.
Tiens, c'est une association d'amitié qui se transporte à Jacquemart-André. Donc, vous passez, comme vous le disiez tout à l'heure, à Servanne, vous passez tous les matins pour venir nous rejoindre à Radio Classique. C'est un très très beau musée. Qui a quel âge maintenant, d'ailleurs?
Eh bien donc, 1913, vous voyez, ça fait 113 ans.
Tout augmente.
Non, 111 ans, pardon.
111 ans, oui. Bon, écoutez, on célébrera ce musée Jacquemart, on aime bien en parler parce qu'on y est très attaché. Cette exposition borghèse est formidable aussi voir. Magnifique. Merci d'avoir évoqué ce musée.
La scénographie, on ne le dit jamais, mais il faut citer Hubert Le Gall qui fait la scénographie.
Hubert Le Gall, très très bien. Mais merci beaucoup. Et la voix de Franck Ferrand, comme ça vous ne le quitterez pas entre Radio Classique et le musée Jacquemart-André. Vous serez toujours avec ce cher Franck qu'on retrouvera à 14h avec cette appellation de ce pape arbre qui faisait sourire les enfants quand nous étions gamins, le pontificat de Pie VII, bien sûr, bien sûr.
On se demande pourquoi.
On se demande pourquoi, oui. Je pose la question. Et puis, demain matin, bien sûr, à 8h moins 5, aux côtés de Marc Bourreau cette semaine, puisque notre ami David est quelque peu souffrant.
Mais oui.
Et on le salue d'ailleurs s'il est en train de nous écouter, en train de prendre un café, un petit déjeuner. Repose-toi, mon cher David, et on te retrouvera dès que possible et en pleine forme. À demain.